Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Antoine Doinel vient de quitter l'armée, congédié pour instabilité caractérielle. Le héros de François Truffaut, son double, cherche du travail. Il est d'abord veilleur de nuit dans un hôtel, mais il se fait renvoyer après avoir participé, malgré lui, à la découverte d'un adultère par un détective privé. Le jeune homme se fait alors embaucher par l'agence de détectives en question. Sa première filature est l'affaire Tabar. Il commence par tomber amoureux de sa femme.
Allô, oui ?
Allô, Ida ?
Salut Antoine.
Bonjour, c'est Antoine, là, sur l'affaire Cendrillon. Alors, monsieur Tabar est surnommé le dinosaure par son personnel. Ah, j'ai fait la connaissance de madame Tabar. Elle a une voix enchanteresse et parle l'anglais avec une pureté admirable.
Donnez-moi son signalement.
C'est une femme superbe. Avec un air très vague et très doux. Le nez est un peu relevé, mais droit et spirituel.
Sa taille ?
Ah là, la taille est lancée.
Non, je vous demande combien elle mesure.
Oh, 1m66, sans talon.
La forme du visage ?
C'est un ovale très pur. Enfin, un ovale un peu triangulaire, mais le teint est lumineux et comme éclairé de l'intérieur.
Tiens, Antoine, ce qu'on vous demande, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour. Bonne nuit.
Il faut dire que le mari de cette véritable apparition, le marchand de chaussures Tabar, est venu voir l'agence de détective privé Blady pour une curieuse raison, baiser volé François Truffaut.
Mais je comprends pas très bien le but de votre visite. Qu'attendez-vous de moi, au juste ?
Eh bien voilà, personne ne m'aime et je veux savoir pourquoi.
Oui, je sais ce que vous allez me répondre.
Pourquoi est-ce que je veux pas voir un psychanalyste ?
Alors, c'est pas l'argent que ça me coûterait, ça, j'ai des moyens, croyez-moi. Mais je ne veux pas perdre mon temps à raconter ma vie sur un canapé.
Non, je suis pas une femme lettre, n'est-ce pas ? Et mon magasin me prend trop.
On est bottier 24 heures sur 24, ou alors on n'a qu'à faire autre chose, mon âge.
Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, IRL, In Real Life, comme on dit, trois autres histoires ou parcours de détectives privés. C'est jusqu'à 14 heures sur France Culture par Alain Lefkovitch.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je suis Anthony Caudal, je suis détective privé maintenant depuis 2008-2009 sur Paris. J'ai voulu faire ce métier parce que j'étais passionné de généalogie. Et j'ai bifurqué après vers tout ce qui est concurrence déloyale, tout ce qui est dossier d'adultère, etc. Alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire au départ, en fait. Parce que moi, c'est surtout des petits patrons qui viennent me voir, qui se retrouvent coincés et qui savent pas comment agir, en fait. Je peux vous montrer une affaire sur une société qui a fait appel à nos services pour matérialiser le fait qu'un de ses salariés, qui est en arrêt maladie, en fait, profitait de cet arrêt maladie non pas pour se reposer et se faire soigner, mais pour monter une nouvelle structure concurrente de là où il était. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc là, on peut voir le rapport. Comment se passe le rapport ? Alors monsieur X, qui est dirigeant de la société, nous demande d'intervenir afin de vérifier les faits suivants. Un de ses salariés, monsieur, qui est en arrêt maladie depuis le 7 juillet, travaillerait en réalité pour une société spécialisée qui pose des filtres, exactement comme le client, en fait. Donc, le client vient nous voir, mais il a déjà des preuves, lui. C'est-à-dire qu'il a déjà fait sa petite enquête sur Google, sur société.com, etc. Et il s'est aperçu que le salarié avait même déjà déposé des statuts pour créer sa structure. Donc il le fait de manière un petit peu, on va dire à l'arrache quand même, parce que il n'a pas bien préparé, ou il a pris son patron pour un gros naïf. Donc nous, il nous demande après d'aller voir sur place pour voir si effectivement il a juste déposé des statuts, mais c'est quelqu'un d'autre qui travaille, ou s'il ne travaille pas du tout. Donc nous, on se rend à l'adresse là où il est censé travailler et on essaie de prendre des photos de ce qui se passe, en fait, pour après le montrer au client, et c'est lui qui décide de ce qu'il va faire avec le dossier. Et c'est beaucoup de temps de préparation, et puis il y a des endroits où on ne peut pas planquer. Donc là, ça va, ça se passe bien. C'était en banlieue, mais dans une banlieue qui était plutôt calme. Mais il y a des endroits où il y a des sociétés qui sont installées et où on ne peut pas planquer, en fait. On nous prend pour des flics, où on remarque directement qu'il y a un nouveau véhicule, quand on se positionne, etc. Et c'est très compliqué pour nous. Voilà. Donc là, c'est une caméra cachée. Là vous voyez qu'il regarde déjà la voiture dans laquelle on est planqué, mais il ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, lui, mais voilà. Plus, pour l'anecdote, nous, on est dans une voiture avec des vitres teintées, et lui, il pose des vitres teintées. Donc ça doit l'intéresser, voilà. Alors, ça, c'est un dossier où on a la chance de travailler que sur un jour ou deux, vraiment sur le terrain. Donc il y a très peu de chances qu'il nous repère. Si on devait travailler une semaine sur lui en faisant des filatures parce que c'est un commercial, là c'est beaucoup plus difficile de ne pas se faire repérer. Là on le voit arriver comme un salarié. Ça c'est le panneau publicitaire qui est installé avec son numéro de téléphone personnel. Il y a son prénom, donc il se cache pas vraiment en fait. Bon, là, on le voit travailler toute la journée. On le voit travailler sur les véhicules qui arrivent, des clients. On voit le véhicule qui arrive sans vitres teintées. Et il ressort du garage avec les vitres teintées. Il y a un côté excitant quand même. Ouais, c'est parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, en fait. C'est toujours une surprise. Même un petit dossier d'adultère, ça peut être une surprise. Donc... les véhicules, voilà. Donc là, on a pu prendre une photo avec le logo de la société juste au-dessus de lui en train de travailler. C'est toujours intéressant de montrer que, voilà. On a fait une deuxième intervention. C'est la pose de vitres. On a fait intervenir un autre agent qui est venu avec une voiture qui n'avait pas de vitres teintées, etc. Et on lui a demandé de nous poser des vitres teintées pour voir si c'est lui qui les faisait, si c'est lui qui encaissait, si c'est lui qui était le chef de ce service. Et effectivement, c'est lui qui a tout fait, de A à Z. Et à la fin, bien sûr, on fait un résumé des constatations. Nous avons constaté que monsieur était en activité professionnelle lors de notre vérification de telle date. Nous avons constaté qu'il ne cachait pas cette activité professionnelle. Nous avons constaté que le numéro d'identification de la société est inscrit au registre du commerce et cette société appartient bien à Monsieur X. Voilà. Puis après ça, on le remet à notre client et c'est lui qui gère avec son avocat, etc. Nous, on va chercher les preuves, mais après, on va dire que dans 80% des cas, on ne sait pas ce qui arrive. Parce que les procédures sont longues et que les clients, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, en fait, ils nous expliquent pas ce qui se passe avec. Donc, en général, c'est plutôt positif parce que soit eux nous rappellent, soit leur avocat nous rappelle pour d'autres dossiers. Donc, on se dit que ça sert à quelque chose, ce qu'on fait. Mais on n'a pas de retour, en fait. Après, moi, je me dis que j'ai rendu service à ce patron. Est-ce que j'ai rendu service à ce salarié qui arrivait à profiter du fait d'être en situation de... je crois qu'il était payé par la Sécu, et puis en même temps, il pouvait avoir une société, pouvait travailler, poser des vitres, etc. Je me dis, bon, j'ai même servi la société, finalement, puisque ça fait des... Ça fait quelqu'un qui profite un peu moins du système, quoi, donc...
enquêteur privé, pour être employé le terme vulgaire, de détective, installé depuis 1993. J'ai un cursus qui est différent des autres parce que je n'ai aucune formation dans la profession. J'étais comptable dans une grosse entreprise et voilà, du jour au lendemain, une affaire, un mauvais payeur sur une traite qui s'est présentée à nous, j'ai été obligé d'aller voir le patron pour lui dire le meilleur moyen pour récupérer cet argent, c'est de me déplacer et d'essayer de récupérer cette somme. J'ai fait un peu l'agent de recouvrement et de fil en aiguille, Arrivé sur place, les rideaux baissés, le bonhomme avait disparu, plus aucune trace de la société. J'ai fait une petite enquête et j'ai retrouvé ce bonhomme-là qui a accepté de me verser une partie de la somme, qui était au départ de 350 000 francs. Il m'a donné 150 000 francs et avec ces 150 000 francs, lorsque je les ai posés sur le bureau de mon patron, il m'a dit « Élie, eh ben écoute, j'ai envie d'investir dans une entreprise de détective. » Et je te mets directeur de la société, et je suis parti comme ça. Moi, avant de démarrer le métier, le détective, c'était plus celui qui était entouré de jolies filles et qui faisait des enquêtes un peu, on va dire, qui aidait un peu plus la police. Et voilà, donc c'était un petit peu Mike Hammer, voilà, c'était un petit peu mon idole du détective que je connaissais, et évidemment Nestor Burma derrière, voilà. Il y a certainement des agences ou des privés qui sont entourés encore de jolies filles. Bon, moi j'aurais bien aimé, mais bon, je suis pas parti dans cette voie. J'ai plutôt pensé à réussir les missions que de pavaner autour des jolies filles. Bizarrement, je vais vous étonner, mais je suis dans ce quartier ici depuis plus de 20 ans, presque 25 ans. Vous pouvez aller demander à certains commerçants autour en disant « Est-ce que vous connaissez le détective, à quoi il ressemble ?» Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas encore. Donc voilà, là, c'est la discrétion. Non, j'ai pas... Moi, je pense pas que le déguisement est important. On conseille aujourd'hui aux jeunes qui apprennent le métier de se désilhouetter, c'est-à-dire de changer de veste, de mettre une veste verte à la place de la noire qu'on avait, ou rouge, enfin bon, ou une perruque pour les femmes, des grandes lunettes, etc. Mais encore une fois, c'est... Moi, j'ai pas eu besoin de ça. Je pense que la discrétion a payé, quoi. C'est un métier où on est tenu, nous, agents privés de recherche, puisque c'est le terme vraiment employé, à la confidentialité de tous les dossiers. On est tenu, comme un avocat, comme un médecin, à préserver tous les renseignements qu'on récupère ou qu'on donne aux clients serviront uniquement pour la défense de leurs intérêts. Je sais pas, moi, si vous êtes rentré dans mon bureau, je sais pas si vous avez fait attention, mais la première chose que j'ai faite, c'est retourner... le dossier pour ne pas que vous voyez les noms qui sont inscrits dessus. Donc voilà, moi je suis plus dans la protection de mes clients, dans la discrétion, dans la confidentialité. Je n'ai jamais présenté de clients aux journalistes parce que déjà tous les clients qui viennent me voir espèrent une grande confidentialité, donc moi je les respecte. Pour couvrir la confidentialité et le respect du client, je préfère monter un petit scénario ou reprendre une ancienne affaire et mettre des personnages, comme on dit vulgairement, fictifs. C'est pas une question de réalité, mais on dire qu'ils ne sont pas reconnaissables dans tous les cas. Sur toutes les émissions télé, il y en a une qui est passée sur une grande chaîne télé de grande écoute il y a quelques années maintenant. Et j'ai tout ce qui se passe dans tout ce qu'on a montré est réel, sauf que la personne qu'on suivait, ou en même temps la voiture et la personne qui était à l'intérieur, était un ami à moi. Voilà, juste ça. J'ai demandé à un ami de partir de chez lui. J'ai demandé au journaliste de se pointer devant chez lui. Je leur ai pas dit tout de suite que c'était un montage, hein, parce que quand on dit ça souvent aux journalistes, ils veulent pas faire le reportage. Là, j'ai rien dit, j'ai pas été honnête avec eux, donc c'était aussi un de mes premiers reportages télé. C'est la première fois que je passe à la télé, donc j'avais envie de paraître un petit peu. Ça nous fait une petite publicité quand même, hein, dire que le détective il fait aussi ce genre de mission, montrer certaines actions, etc. On a moins d'affaires, donc il faut un petit peu se faire connaître. Donc pour se faire connaître, on pense à la télé, à la radio. On va peut-être nous reconnaître et dire tiens, ça tombe bien, on a besoin d'un détective. On dévoile certaines informations, mais quand je dis dévoiler, c'est plus attendre devant l'immeuble pour rentrer dans l'immeuble en même temps qu'une autre personne qui sort pour essayer de voir si le nom de la personne qu'on cherche est sur les boîtes aux lettres, aller voir la gardienne de l'immeuble en essayant d'obtenir des renseignements aussi sur un occupant. Ça, on peut le montrer. Je pense que c'est pas... Bon, je suis désolé pour les auditeurs, mais j'ai un peu menti là-dessus. Mais je ne mens plus.
France Culture, les pieds sur terre.
J'ai traité des milliers de dossiers. Il m'est arrivé plein de problèmes. J'en ai fait des vertes et des pas mûres. Hein. J'avais installé un WC de chantier sur le pont Mirabeau, sur le trottoir du pont Mirabeau. J'ai retardé en 100 ans de 48 heures la démolition d'un immeuble où se trouve aujourd'hui le Bercy, le POPB. J'en ai fait des vertes et des pas mûres. Hein. C'est sans autorisation. Hein, on avait mis un sous-marin, vous savez ce que c'est un sous-marin ? On avait mis un sous-marin sur un trottoir, je crois que c'était sur rive gauche. Alors évidemment, ça n'a pas loupé parce que les flics sont passés. Et puis, ils ont vu l'intérieur du sous-marin, ils ont dit « Ah bon, les gars, bon, très bien, vous pouvez continuer à bosser. » Donc, tout ça, voilà, c'est terminé, quoi. De toute façon, déjà, je vous dis, j'ai été invité au Carrefour du Policier lorsqu'il a été créé. J'avais fait avant le festival de Carrefour du Policier à Royan, le festival des films policiers à Cognac. Enfin, j'ai fait toutes les premières. J'étais membre du jury, donc j'étais avec des gens comme Annie Girardot, Pierre Tchernia, Michel Audiard, Jean Richard, j'en passais des meilleurs. Des grands. C'était très intéressant. Par contre, dans la réalité, c'est complètement différent de ce qu'on peut voir au cinéma. Je m'appelle Jean-Claude Barret. Je travaille au cabinet de Luc depuis 1972, depuis le mois de mai 72. Alors, Duluc, c'est le nom du fondateur. Jean Duluc était fonctionnaire de police à la brigade criminelle à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est qu'il a créé le cabinet en 1913, lorsqu'il a pris sa retraite. Donc, il avait un potentiel de clientèle tout tracé. Et puis, sa fille a pris la suite. Puis après, est arrivée une période un peu trouble. Et puis, est arrivée aussi la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et mon beau-père a acheté le cabinet à la fin de la guerre. Le cabinet se trouvait à l'époque place Saint-Georges, il a transféré boulevard Montmartre, il a transféré ensuite rue du Louvre, 18 rue du Louvre, depuis 1945, je crois, si ma mémoire est bonne. Je suis tombé dedans par hasard un peu. J'ai fait des études de droit. Mon père était inspecteur des impôts. Je me destinais en principe à l'administration, à l'école des impôts à Clermont-Ferrand, parce que j'ai fait droit à Clermont-Ferrand. Mais ce qui s'est passé, c'est que. Comme beaucoup, j'ai dévié. Et j'ai préparé le concours de commissaire de police, que j'ai brillamment loupé. Je suis rentré à la maison et mon père m'a dit « Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne vas pas rester là. » Et effectivement, j'ai passé un autre concours, le service de la répression des fraudes, et j'ai été nommé inspecteur de la répression des fraudes en poste à Saint-Étienne. Et puis, voulant un jour revoir un copain d'armée, je suis tombé sur ma femme qui, par le plus grand des hasards, se trouvait là. Et mon beau-père était né en 1908. Il était fatigué, il n'en pouvait plus, parce que c'était un métier très dur. Et donc, mon beau-père a pris sa retraite et nous, on a continué à exploiter le cabinet. Donc, finalement, je démissionnais l'administration, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, pour faire ce métier-là. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas le détective privé, je ne savais pas ce que c'était, moi. J'ai découvert la profession, ce qui correspondait un peu à mon caractère, parce que moi, je suis un latin, donc j'ai un système D très développé. C'est un métier où il faut avoir beaucoup de système D. Et donc, finalement, j'ai appris le métier. Ça n'a pas été facile, parce que c'est un métier très, très dur. Enfin, moi, personnellement, j'ai considéré que j'étais à peu près correctement équipé au bout de 10 ans. Mais aujourd'hui, évidemment, la situation a encore changé, a beaucoup évolué. C'est un métier qui est en constante évolution, quoi. C'est-à-dire que beaucoup d'activités de la profession étaient du droit de la famille, les fameuses histoires de mari trompé ou de femme battue, enfin bon, tous les problèmes conjugaux, qui subsistent encore aujourd'hui, mais dans des proportions relativement dérisoires, je dirais. Donc, si vous voulez, tout a changé à partir du moment où l'adultère n'est plus devenu un délit, quoi. Alors après, les constats adultères ont perduré, mais le dernier qui a été fait ici par le cabinet, auquel le cabinet a participé, remonte à peut-être à 3 ou 4 ans ou 5 ans. Et encore, c'était un miracle parce que j'en avais pas fait depuis des années et je croyais pas que ma cliente puisse avoir une ordonnance pour faire un constat. Bon, parce que pour moi, c'était une procédure totalement obsolète. On a toujours fait les poubelles, sauf que les poubelles, aujourd'hui, c'est plutôt la corbeille de l'ordinateur, quoi. Ça, tout a changé. Il faut évoluer. Ah, bon. Simplement, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce que la législation nous donne peu de moyens. Bon, j'ai beaucoup d'admiration pour le 36, qui est désormais faible. D'ailleurs, mon numéro de poste est 36. Enfin, j'ai passé une soirée au 36, etc. Bon, ce sont des gens, ce sont des vrais flics. Bon, ce sont des grands enquêteurs, il y a de très très grands enquêteurs. Si vous allez passer quelques heures à voir comment les gars travaillent, vous allez voir qu'effectivement, c'est un boulot passionnant. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration. Je regarde beaucoup. Je regardais beaucoup Andelat. Faites entrer l'accusé, j'adorais, etc. Vous voyez. Je suis très passionné par l'enquête. Moi, si vous voulez, le plus bel hommage que j'ai eu, c'est un gars qui est venu me voir, un flic, qui me dit, on m'a parlé de toi, on m'a dit que tu étais très bon sur le problème des recherches. J'ai un dossier, etc. Bon, je connaissais son affaire puisqu'elle était médiatiquement connue. Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je peux faire, etc. Parce que voilà, moi, je sais pas faire. Nous, on sait pas faire parce que on n'est pas formé à ça. Parce que c'est du travail, si vous voulez, qui s'apparente à celui de généalogiste. Vous voyez? Donc, il est venu m'interroger là-dessus. Bon, il est pas venu comme ça, en prenant le cabinet de Luc. Il est venu parce qu'on lui avait parlé de moi. Et il est venu me poser des questions là-dessus, on a discuté, je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà ce que j'en pensais, etc. Et après, bon, je ne l'ai pas revu, je pense qu'il a fait son boulot. Mais on n'est pas des mauvais, hein. Et on fait du boulot, on fait du travail d'enquête, d'investigation. Eux le font avec des moyens beaucoup plus importants que moi. Mais je vois effectivement qu'ils sont en but à une énorme difficulté parce qu'ils ont ces histoires de procédures et d'autorisation de ceci ou de cela. Parce que, bon, la procédure chez eux, c'est capital. Et, alors que moi, je n'ai pas ces problèmes-là. Par contre, ils ont des moyens que je n'ai pas. Enfin, je ne vais pas dire que je suis le plus beau, je suis le meilleur, mais au niveau de la recherche, j'adore ça. Par exemple, là... on a travaillé sur un dossier, pour une dame qui nous a demandé de lui faire une recherche. Je trouvais pas trace de son... C'est son fils. Elle nous a dit, je sais pas où est passé mon fils, etc. Le fils qui a coupé les ponts avec sa mère. Ouais. Donc, en réalité, c'est un garçon qui est né en 75, de mémoire. On a fait un travail assez important. Avec les aléas de la législation française, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il s'était marié le 9 janvier 2010. Ce mariage a été transcrit au niveau de l'état civil à la mairie de naissance le 29 septembre 2015. Donc, entre 2010 et 2015, bon, vous voyez un peu le délai, et entre-temps, il a divorcé. C'est-à-dire que le mariage a été transcrit fin septembre 2015, le garçon en question a divorcé en 2013, et le divorce, évidemment, n'est certainement pas encore mentionné. Donc, vous voyez un peu tous les aléas. Alors, on l'a localisé à Malte, et on a localisé son ex-épouse à Sydney, en Australie. Et j'adore ça. J'adore ce type de recherche. Je suis plus enclin à accepter un dossier de recherche de personnes, par exemple. Et puis, bon, il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres. Déjà, tout ce qui est politique, etc., ou médias, enfin, personnes médiatiquement connues, etc., j'aime pas. Ou je fais pas. Je veux pas avoir d'ennui. Non, ce qui me passionne, moi, c'est la recherche. La recherche, par contre, tout ce qui est surveillance et filature m'intéresse très peu. Mais j'adore l'enquête parce que on découvre des trucs pas possibles. Et puis on se dit, quand vous avez terminé votre dossier, vous dites, bon sang, mais pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça? Alors que vous imaginez que vous avez perdu un temps fou, que vous avez fait des frais à tort et à travers pour rien. Alors que la logique, effectivement, quand le dossier est terminé, ça vous paraît beaucoup plus simple. Vous n'auriez pas dû faire ça. Mais bon, comme je dis toujours, faut trouver le bout de la ficelle, et puis après, il faut dérouler. C'est pas évident, hein. Papa, papa, tree top tall.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, des histoires de détectives privés, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Marie Placet. Merci à Élie Cohen, à Jean-Claude Barret et à Anthony Caudal. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Clara Lacombe, notre stagiaire. Et tout de suite, dans quelques instants, ne manquez pas sur France Culture, Marie Richeux et ses nouvelles vagues. Bon après-midi à l'écoute de notre chaîne.